Retrouvez l'Instant Mickey, la série de podcasts des éditions John Libé, réalisée avec le soutien des laboratoires Galapagos. Dans cet épisode, le professeur Mathieu Allais, chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Louis, est entouré de Catherine Cerizet, enseignante de la perspective patient à la faculté de médecine Sorbonne-Paris-Nord, et de Pierre-Louis Atwell, patient atteint d'une maladie de Crohn, pour faire le point sur la décision partagée.
Bonjour, je suis Mathieu Allais, médecin à l'hôpital Saint-Louis, spécialisé dans les maladies inflammatoires de l'intestin, et j'ai le plaisir de faire un trio dans ce podcast avec Catherine Cerizet, qui est une patiente engagée, enseignante à la faculté Paris-Sorbonne-Nord.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Catherine. Et puis Pierre-Louis Atwell, qui est patient expert des maladies inflammatoires intestinales, navigateur professionnel sur le bateau qui s'appelle Vogue avec un Crohn. Bonjour Pierre-Louis.
Bonjour Mathieu, bonjour Catherine.
Catherine, je propose de commencer ce podcast, que vous disiez un peu la définition de la décision médicale partagée et les processus qui sont associés à cette décision médicale.
Alors justement Mathieu, c'est très bien que vous me posiez la question sur le processus de décision médicale partagée. C'est une mauvaise traduction de l'anglais. On parle de shared decision making, ce qui est vraiment un processus de décision partagée dans lequel n'apparaît pas le mot médical qui pourrait prêter à confusion et qui pourrait faire croire que c'est une décision entre professionnels de santé. Donc, il y a trois principes de décision lors du colloque singulier. Il y a la décision qu'on pourrait appeler décision paternaliste, où le médecin décide seul et impose sa décision au patient. La décision informée, où le médecin informe le patient et le patient décide seul, ce qui est souvent très compliqué pour un patient. Et la décision partagée, où le médecin et le patient décident ensemble. Donc, c'est un processus très cadré. Le praticien arrive avec sa connaissance, évidemment, scientifique et sa propre expérience. Le patient arrive avec son expérience de la maladie, de son parcours de vie, ses préférences, ses valeurs, son mode de vie, ses croyances, ses peurs, voire une connaissance scientifique acquise durant son parcours, comme il peut acquérir une connaissance scientifique via l'éducation thérapeutique. Il y a beaucoup de patients experts, d'ailleurs, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Chacun, le médecin et le patient, partagent ses connaissances et le médecin présente les différentes alternatives de traitement. Le préalable, c'est donc l'information qui doit être claire et compréhensible et comprise. Le médecin et le patient discutent ensemble pour trouver la meilleure option pour le patient et la décision est prise et partagée.
Je pense que le mot processus est un mot important. Et ce processus, il doit donc s'intégrer dans notre activité, alors là je parle en tant que médecin, notre activité de, souvent de consultation, ça peut être aussi dans d'autres circonstances, mais c'est très souvent en consultation. On voit bien que les décisions, ce n'est pas forcément toujours les décisions importantes d'ailleurs, ça peut aussi concerner des points qui peuvent nous sembler des points de détail. Et pour moi, donc, ce que ça suggère, c'est que ça suggère une information délivrée au patient qui doit être de qualité, compréhensible, loyale. Ça n'enlève pas quand même un aspect qui est pour moi très important, qui est notre responsabilité de soignant d'emmener le patient sur un chemin vers une meilleure qualité de vie, un contrôle de la maladie. Et dans le cadre des maladies inflammatoires, c'est vraiment un contrôle de la maladie, restauration de la qualité de vie, donc c'est un dialogue. Je vous rejoins complètement, je crois qu'on ne peut pas soigner quelqu'un sans connaître son parcours, sans connaître son histoire. Et pour moi, en plus, les décisions thérapeutiques n'apparaissent que lorsqu'on a bien pris en compte l'histoire particulière de chaque patient. C'est un aspect qu'on aborde sur le terme de la médecine personnalisée. C'est une médecine au cas par cas, on doit s'adapter, on doit être à l'écoute, ce qui est assez compliqué. Je crois qu'on peut parler de la formation, mais on voit bien que ça s'acquiert avec l'expérience aussi. Je pense que toutes les formations sont excellentes, mais l'expérience du partage de l'information, d'associer, emmener le patient peut-être vers un processus de connaissance, de prise de connaissance, de prise de conscience de la situation, afin de définir avec lui la meilleure stratégie. Pierre-Louis, tu as une expérience différente de la mienne en tant que soignant. Tu as l'expérience d'un patient Et qu'est-ce que tout cela t'évoque pour toi ?
Bah écoute, Mathieu, c'est vrai que moi, en tant que patient, ça fait une dizaine d'années donc, que je suis atteint d'une maladie de Crohn. C'est une maladie qui est arrivée dans ma vie quand j'avais 16 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Tout au long de mon parcours de patient, j'ai connu différents types de prise en charge. Une première prise en charge qui était plutôt, je dirais, avec une relation un peu verticale, c'est-à-dire qu'avec un médecin, voilà, qui était plutôt qui transmettait un peu l'information, qui prenait les décisions et dans lequel j'étais pas forcément impliqué dans les décisions. Et puis il y a une deuxième prise en charge plus récente dans lequel finalement les rendez-vous médicaux de suivi de la maladie sont vraiment transformés en séances d'échange et de partage. Alors ces prises en charge, elles ont de différentes que déjà la consultation est beaucoup plus longue puisque voilà, avec mon gastro-entérologue aujourd'hui, il s'intéresse à l'intégralité finalement de ma vie, de mon activité. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on cherche en tant que patient, c'est finalement c'est de pas être traité comme un dossier médical, c'est finalement de pas venir à la consultation avec le résultat de la prise de sang en demandant finalement au médecin est-ce qu'on a bien fait ou pas bien fait pendant les 6 derniers mois. Mais vraiment, déjà d'être impliqué dans son parcours de soins et que finalement, cette consultation, ce soit un moment d'échange et de partage pendant lesquels le patient se sent libre aussi, finalement aussi peut-être de poser ses propres contraintes, les contraintes voilà, qui sont les siennes, qui sont liées à son projet de vie, à son projet professionnel, à ses envies. Moi, par exemple, je suis navigateur professionnel. C'est complètement incompatible avec mon calendrier qu'on m'impose les dates de consultation ou d'examens médicaux. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la base, c'est s'intéresser au projet de vie du patient et l'impliquer, parce que ça responsabilise aussi le patient. Et je pense que quand on est un patient qui est impliqué dans son parcours de soins, on a moins l'impression de travailler finalement pour le médecin, mais on a l'impression de travailler pour soi. Et je pense que c'est beaucoup plus facile.
Catherine, qu'est-ce que une réaction de votre part ?
Je pense que Pierre-Louis a tout dit. Alors, je suis pas forcément d'accord sur le mot responsabilisation du patient, mais je pense que c'est implication du patient et ça devrait être normalisé. En tout cas, ce processus de décision partagée. Mais Pierre-Louis parlait, et j'ai trouvé ça très intéressant, du temps. Et en fait, c'est vraiment important cette notion de temps, parce que effectivement, ça prend plus de temps de discuter, d'une certaine négociation pour avoir le traitement. Mais en même temps, je pense sincèrement que ce temps perdu, entre guillemets, à la première ou seconde consultation, est du temps gagné après. On cherche toujours à ce que le patient accepte le traitement et c'est le principe. Enfin, je veux dire, chaque médecin veut être bienveillant et bien traitant pour le patient. Il veut absolument que les choses se passent bien, que le patient guérisse. Bon, là, en l'occurrence, c'est une maladie chronique, mais que le patient accepte son traitement et le vive le mieux possible et la meilleure qualité de vie. Mais on accepte mieux son traitement quand on l'a co-décidé. Alors, c'est très à la mode, co-décider, etc. Mais je pense que c'est vraiment important parce que j'ai l'habitude de dire que comme un divorce à l'amiable, quand on négocie et qu'on arrive à un accord tous les deux, on accepte mieux la pension alimentaire. Et là, en l'occurrence, c'est le traitement. Donc, on adhère mieux à son traitement. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que l'adhésion au traitement, ce qu'on appelle l'observance, c'est vraiment une chose extrêmement importante pour le médecin et évidemment pour le patient. Et puis, on lui redonne, et c'est ce que disait Pierre-Louis, le pouvoir d'agir, on devient acteur de sa prise en charge, on se sent impliqué, et c'est quand même important parce qu'on parle beaucoup de parcours de soins, mais c'est un parcours de vie. Et Pierre-Louis part en mer, et quand il dit « moi, je ne peux pas accepter les rendez-vous médicaux parce que je ne suis pas là », c'est prendre en compte ses contraintes et lui donner aussi son pouvoir d'agir et sa possibilité d'avoir un parcours de vie correct et donc une meilleure qualité de vie.
Je souscris totalement à ce que vous dites et cette notion de temps gagné me paraît une notion importante. Donc, les premiers échanges sont décisifs dans la relation. Ils interviennent dans des circonstances différentes. C'est ça qui est particulier dans notre métier. Ça peut être en endoscopie, ça peut être parfois dans un couloir, c'est pas toujours dans la consultation, mais donc il va falloir créer ce lien. Encore une fois, apprendre à se connaître l'un et l'autre, mais nous, on doit apprendre à identifier les événements qu'a vécu le patient, peut-être les traumatismes parfois. Et le temps qu'on va passer, et donc personnellement, moi, mon expérience, c'est que je passe beaucoup de temps à recueillir les informations. Et dans un premier temps, je ne suis pas sûr d'envoyer un premier abord très sympathique. Je suis professionnel d'abord dans un premier temps. Je collecte les informations. Et une fois que je pose mon stylo, je rentre dans un dialogue. Mais la première étape est de collecter les informations. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que c'est nous qui avons la connaissance sur les options de traitement. On ne doit pas montrer une incertitude, en fait. On doit avoir une certaine expertise, si possible. Si on ne l'a pas, on peut s'organiser avec des réunions multidisciplinaires, prendre un avis des collègues et revenir gérer ce temps. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas montrer une indécision, de ne pas. On s'associe à la décision, mais en aucun cas, on doit être dans une grande incertitude. On doit montrer qu'il y a plusieurs options, il y a des choix à faire, on doit en discuter. Et ce processus-là va s'opérer. Et encore une fois, c'est pas très compatible avec la médecine telle qu'elle se développe aujourd'hui, qui devient de plus en plus technologique. En tout cas, moi, c'est ce que je vis en exerçant depuis plusieurs décennies maintenant. L'évolution a été assez impressionnante. On passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Bon, cette notion de temps gagné est très importante. Et ça veut dire aussi que quand quelqu'un va être suivi après, il accepte que la consultation soit plus rapide. C'est-à-dire quand on a passé du temps, on arrive plus facilement. Ensuite, c'est l'expression que vous avez utilisée, vous, Catherine, vous avez dit on gagne du temps. On en gagne dans le sens où on a déjà avancé dans le processus et ça va être plus fluide.
Justement, Mathieu, en parlant de temps, moi, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas des temps et plutôt des périodes d'activité de la maladie où c'est plus facile d'instaurer cette décision partagée? Moi, je pense à mon expérience, quand j'arrive aux urgences en pleine crise, finalement, je suis dans une phase aiguë. Est-ce que à ce moment-là, je ne cherche pas une solution qui est efficace? Et moi, j'ai le sentiment que dans ce moment-là, le patient, il va plutôt chercher justement cette vérité scientifique, c'est-à-dire je viens chercher une réponse et j'ai un peu l'idée, le sentiment que la décision partagée, elle s'exprime plus facilement, en tout cas, elle est plus facile à mettre en œuvre plutôt dans le traitement de fond et dans les périodes de rémission de la maladie. Je sais pas, quel est votre regard à tous les deux là-dessus?
Je pense qu'effectivement, en cas d'urgence, c'est très souvent le cas, parce que recueillir un consentement en cas d'urgence, c'est un peu compliqué. Donc, les cas d'urgence sont un petit peu particuliers, effectivement. En revanche, dans une prise en soin, j'aime pas trop le mot prise en charge, même si c'est le mot consacré, dans une prise en soin sur une maladie chronique comme les MIKI, je pense qu'il y a plein de temps où la décision peut être partagée. Et puis, si in fine, il n'y a qu'une option thérapeutique, il y a toujours une autre option, c'est de ne rien faire. Donc, il y a toujours une alternative. Et cette alternative, au risque de ne pas plaire aux médecins, c'est une façon de voir les choses que le patient a dans sa propre vie pour des raisons qui le concernent. Donc, il y a toujours deux options. Mais c'est vrai qu'en cas d'urgence et quand on a besoin d'être soulagé, effectivement, on fait confiance à l'expertise médicale et c'est bien normal.
Il y a certaines situations où on doit prendre la main. Il y a parfois des patients qui sont en grande difficulté. Il y a aussi parfois des tableaux de détresse psychologique qui vont faire qu'on va avoir quelqu'un en face de nous qui va être plus dans la difficulté pour prendre une décision. Ça peut même être en difficulté si on lui demande de prendre une décision. Il y a des gens qui vont avoir besoin. Ça, c'est réellement, encore une fois, c'est au cas par cas. Et ce que tu décris avec les situations d'urgence, c'est vrai. Et puis, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un jeune homme en consultation avec une complication grave. Il n'y avait plus qu'une seule option. L'option était très lourde. J'ai amené ce patient à accepter l'option lourde. Et en prenant le temps de lui dire qu'il allait voir d'autres personnes, que j'allais le revoir une semaine après, parce que c'était pas une bonne nouvelle, sans rentrer dans les détails. Et il y a des situations comme ça où on doit accompagner quelqu'un, et en tout cas en tant que médecin, on est convaincu. Par exemple, quelqu'un a un cancer, il y a pas d'alternative. Il faut aller opérer, il faut enlever cette tumeur. Voilà un exemple. Après, il va y avoir bien sûr de la discussion, des échanges sur le moment. Il y a plein d'échanges possibles. Comment le patient va interagir avec son entourage. On peut même définir une stratégie sur autre chose. Comment est-ce que vous allez faire pour annoncer ce que je viens de vous dire à votre entourage? Vous avez besoin d'aide? Voilà, c'est un temps. Encore une fois, c'est pas de la manipulation, c'est aider quelqu'un à le rendre acteur. Mais malheureusement, il y a des situations où on n'a pas toujours plusieurs options avec un choix. Et la réalité, c'est que la vie et ces situations-là sont multiples. Et ce qui est compliqué pour les médecins et encore plus pour les patients, c'est qu'on fait face à des situations à chaque fois nouvelles.
Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre-Louis, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Mathieu, à propos des personnes qui sont vulnérables ou qui ne sont pas en situation de partager une décision, je pense qu'il est important, et ce que vous disiez est très important, c'est que ce n'est pas forcément sur une option thérapeutique, sur des choix compliqués, etc. Ça peut être, comme le disait Pierre-Louis, un moment où on peut, on ne peut pas, on veut, on ne veut pas être pris en charge parce que notre vie fait qu'on a d'autres choses à faire et que c'est un parcours de vie et pas un parcours de soins. Hein, et c'est ça la réalité des maladies chroniques. En même temps, je pense qu'il faut aider à monter en compétences les personnes qui sont plus vulnérables, moins enclins à prendre la décision, à partager cette décision, plutôt que prendre la décision. Et ça, c'est le rôle du médecin, de déterminer si son patient est en capacité de partager cette décision et l'aider. Je parlais d'expérience, d'expertise médicale, etc. Mais il y a aussi les valeurs, les peurs, le mode de vie, ses volontés de qualité de vie qui font que le partage est possible et le partage de la décision est possible. Dire qu'une opération se fera un petit peu plus tard parce que je marie ma fille, par exemple, et qu'il est important pour moi d'être enfant pour le mariage, etc. Voilà, ce n'est pas forcément des choix compliqués.
Absolument. Pierre-Louis, veux-tu donner le mot de la fin ?
Évidemment, cette décision partagée, elle nécessite, comme le disait Catherine, que les patients puissent s'enrichir, puissent apprendre à avoir les outils, finalement, pour être acteurs de leur pathologie. Et ça vient du médecin qui doit pouvoir transmettre cette information. Et je pense que c'est important non plus de ne pas oublier nos amis des associations de patients qui proposent énormément de contenus gratuits pour la plupart, qui sont facilement accessibles et qui donnent tout un tas d'informations pour que ces patients puissent s'enrichir et reprendre le contrôle et un petit peu s'impliquer davantage dans leur parcours de soins et reprendre le contrôle de leur vie.
Merci Catherine, merci Pierre-Louis pour ce podcast. C'était un plaisir de discuter avec vous.
Merci à tous les deux.
Merci, à bientôt.
Retrouvez prochainement l'Instant Mickey avec un nouveau podcast sur la sélectivité des nouvelles molécules. Ce programme est soutenu par les laboratoires Galapagos. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication, qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le professeur Mathieu Allais déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires Amgen, Biogen, BMS, Celgen, Celltrion, Ferring, IQVIA, Johnson, MSD, Novartis, Pfizer, Roche Genentech, Takeda. Une production des éditions John Libbey.